Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes, le Qatar a investi à Mandalika cette année. Garuda a baissé le prix des billets pour soutenir le tourisme intérieur. Kampung Naga à Tasikmalaya est en demande des touristes étrangers. Le village de tourisme religieux a été créé par FKUB dans le centre de Sulawesi. Le ministre de l'Industrie développe l'industrie à petite et moyenne échelle de la noix de coco intégrée au sud de Minahasa. Le gouvernement indonésien développe les infrastructures de manière égale. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, s'efforcera pour que la réalisation des investissements du Qatar dans le développement du tourisme indonésien soit concrétisée cette année. Le mémorandum d'accord a été convenu depuis l'année dernière, mais l'engagement n'est pas encore tenu. C'est ce qu'a déclaré Luhut Binsar Panjaitan à Jakarta dimanche, cité par Republika Online. Selon le ministre, lors de la signature de mémorandum d'accord par les deux pays, Qatar Investment Authority a déclaré que les investissements dans le tourisme en Indonésie n'étaient pas seulement pour Mandalika, Nusa Tenggara West, mais aussi à d'autres destinations touristiques que le gouvernement priorise, entre autres Labuan Bajo dans l'est de Nusa Tenggara et le lac Toba dans le nord de Sumatra. L'engagement d'investissement accordé à l'Indonésie est de 500 millions de dollars américains. Conformément à l'engagement pris par le président indonésien Joko Widodo, qui veut encourager le potentiel du tourisme intérieur, notamment dans la région de Sumatra Ouest, l'entreprise d'État Garuda Indonesia réduira les prix des billets. Cité par Antara samedi, M. Harry Akhyar, le directeur de capital humain de Garuda Indonesia, a expliqué que la baisse du prix des billets pour Garuda Indonesia était conforme aux aspirations de la population et de l'entreprise d'État qui voulait soutenir le développement économique de Sumatra Ouest. Selon lui, la baisse des prix des billets pourra contribuer à l'amélioration du secteur économique de Sumatra occidental dans le secteur du tourisme, des micro, petites et moyennes entreprises et le secteur de la logistique nationale. Le village traditionnel Naga ou Kampung Naga dans le sous-district de Salawu, la région de Tasikmalaya dans l'ouest de Java, est visité par des touristes de différents pays afin de profiter de la beauté de la nature, des activités simples du peuple autochtone. Le résident de Kampung Naga, qui est aussi le guide touristique, M. Ndut à Tasikmalaya, samedi a déclaré que de nombreux visiteurs étrangers, dont la plupart ont pour but d'examiner les activités des peuples autochtones, y compris les maisons de leurs villageois et d'autres bâtiments traditionnels d'une superficie de 1,5 hectare. Il a déclaré que des touristes étrangers provenant de certaines régions d'Europe et d'Asie, entre autres des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande, et de Taïwan. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Forum sur l'harmonie religieuse, ou FKUB, dans le centre de Sulawesi, créera un village de tourisme religieux en tant que forme de développement de l'harmonie interreligieuse dans le centre de Sulawesi. Comme l'a cité Antara, le secrétaire du Forum sur l'harmonie religieuse dans Sulawesi central, M. Mohtadin Mustafa, dimanche à Palu, a déclaré que les villages de tourisme religieux sont une suite à l'idée de former le village ou le village pilote d'harmonie interreligieuse. Zainal Abidin, le chef du Forum sur l'harmonie religieuse de Sulawesi central, a déclaré que l'idée de créer un village de tourisme religieux qui puisse être visité par toutes les communautés religieuses faisait partie des efforts de renseignement de la fraternité et de l'unité interconfessionnelle. Le ministère indonésien de l'Industrie continue d'accroître la valeur ajoutée des produits à base de noix de coco qui ont un grand potentiel à développer. Cette étape est conforme à la politique de l'industrie en aval visant à encourager la croissance économique nationale. Madame Gati Wibawaningsih, la directrice générale à petite et moyenne entreprise du ministère de l'Industrie, citée par Antara à Jakarta dimanche, a déclaré que l'industrie de la transformation de la noix de coco en Indonésie était assez développée dans plusieurs régions, comme Riau, le nord de Sulawesi, Gorontalo, Jambi, Java Central, Java Oriental et Lampung. Elle a mentionné que la région de Minahasa du Sud, Sulawesi du Nord, comme l'une des régions ayant l'occasion de développer une industrie productive de transformation de la noix de coco. Par conséquent, le ministère de l'Industrie mènera des activités de développement pour les petites et moyennes entreprises de la noix de coco intégrée au sud de Minahasa. Le gouvernement indonésien ne se concentre pas uniquement sur la mise en œuvre de développement des infrastructures, notamment des routes à péage à Java, mais aussi dans l'est de l'Indonésie, comme la Papouasie, pour l'égalisation et la justice communautaire. Cela a été transmis à la presse par le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, après 40e Dialogue national sur l'Indonésie avancé à Curug, Banten, dimanche. Le ministre a déclaré que le développement des infrastructures visait à améliorer la connectivité et l'égalisation afin de faciliter la distribution des biens et des produits de base. Ainsi, les prix seront moins chers et abordables pour la communauté. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Le volcan Merapi est entré en éruption. Le volcan Merapi en Indonésie est l'un des volcans les plus actifs dans ce pays et entré en éruption samedi soir avec la distance de glissement de 1,3 km. Le Centre de recherche et de développement sur la technologie des catastrophes géologiques a enregistré 9 fois les noix chaudes et les avalanches de pierres sortant du volcan situé au centre de Java et dans la région spéciale de Yogyakarta. Depuis 1548, ce volcan a éclaté 68 fois. Selon les registres, il éclate une fois toutes les 2 à 5 ans et le plus grand a de 10 à 15 ans. L'éruption de 1872 était considérée comme la plus forte éruption dans l'histoire de la géologie moderne. On estime la grande dernière éruption en 2010 à presque la même force. L'éruption de 1930, qui a détruit 13 villages et tué environ 1400 personnes, a été une éruption qui a fait le plus grand nombre de victimes jusqu'à présent. En octobre 2010, le volcan Merapi est entré en éruption, accompagné de nuages chauds et de boum. C'est la plus grande éruption depuis les 100 dernières années et a fait 337 morts, des dizaines de villages endommagés et des centaines de milliers de personnes obligées de fuir. Jusqu'à présent, le Centre de recherche et de développement sur la technologie des catastrophes géologiques maintient toujours le statut de volcan Merapi au niveau 2 ou alerte. Pour le moment, les habitants sont encouragés à ne pas mener d'activité dans un rayon de 3 km du sommet du volcan Merapi. En outre, ils ne recommandent pas d'activité de l'escalade, sauf aux fins d'investigation et de recherche liées à l'atténuation des catastrophes. Il existe 4 statuts de volcan, à savoir niveau de base, ce qui signifie que le volcan ne subit pas de changement d'activité fissuelle, sismique et volcanique. Et ensuite, niveau 2, qui indique une augmentation de l'activité volcanique. À ce niveau, l'activité sismique commence, les événements volcaniques et l'augmentation de l'activité au-dessous des niveaux normaux. Ensuite, niveau 3 indique que le volcan a intensifié son activité sismique. Il y a des changements fissuels ou des changements dans l'activité de cratères qui peuvent évoluer en éruption. Le dernier, niveau 4, indique que le volcan est immédiatement ou en éruption et dans l'état critique pouvant causer un désastre. L'éruption d'ouverture a été commencée avec des cendres de la vapeur et la possibilité de continuer dans environ 24 heures. Personne ne veut pas que le volcan Merapi a éclaté à nouveau comme en 2010. Les résidents locaux devraient augmenter la vigilance contre le danger de la pluie de lave, surtout quand il pleut autour du sommet du Merapi. De plus, la communauté doit aussi obéir les appels et les avertissements soumis par le gouvernement régional et l'Agence d'atténuation des catastrophes. La vigilance est très importante pour minimiser le risque de nombreuses victimes. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 4 mars. Le 4 mars 1977, le tremblement de terre à Vrancea, en Roumanie. Le 4 mars 1977, à 21h20, heure locale, un tremblement de terre à Vrancea, en Roumanie, a été ressenti dans l'ensemble des Balkans. Le séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter et l'épicentre est situé dans la province de Vrancea, à une profondeur de 94 km. Le séisme a tué environ 1570 personnes et blessé plus de 11 000 personnes. Environ 35 000 bâtiments ont été endommagés et les pertes totales estimées à environ 2 milliards de dollars. La capitale roumaine, Bucarest, a subi de nombreux dégâts. Le 4 mars 1980, Robert Mugabe est devenu le premier ministre noir au Zimbabwe. Le chef nationaliste Robert Mugabe a été élu premier ministre du Zimbabwe le 4 mars 1980. Le parti de l'Union nationale africaine de Zimbabwe, ZANU-PF, dirigé par Mugabe, a remporté 57 sièges au Parlement sur 80 voix disputées. Son principal concurrent, Joshua Nkomo, n'avait inopinément gagné que 20 places. La victoire écrasante a fait Mugabe automatiquement élu premier citoyen noir à devenir premier ministre du Zimbabwe. Le 4 mars 2012, Vladimir Poutine remporte de nouveau les élections en Russie. Le 4 mars 2012, Poutine a remporté l'élection présidentielle russe de 2012 au premier tour avec 63,6% des voix. Poutine est président de la Russie depuis le 7 mai 2012. Poutine a été premier ministre de 1999 à 2000, président de 2000 à 2008, avant de devenir premier ministre de 2008 à 2012. Mais il y avait de nombreuses allégations de vol en ballon. Des groupes d'opposition ont accusé Poutine et le parti russe uni de tricherie. Malgré les efforts déployés pour publier la transparence des élections, y compris l'utilisation de la webcam dans les bureaux de vote, le nombre de votes critiqués par l'opposition russe et par l'observateur international de l'Organisation européenne pour la sécurité et la coopération en raison de son rôle inhabituel d'intrus. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Keliru, chantée par Ruth Sahanaya. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé Le tarif zéro pour les produits d'importation provenant de la Palestine. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre Le tarif zéro pour les produits d'importation provenant de la Palestine. Le gouvernement indonésien a officiellement commencé à appliquer le tarif zéro pour les produits palestiniens importés depuis jeudi le 28 février 2019. Le ministre indonésien du Commerce, Enggartia Stolokita, l'ambassadeur de Palestine en Indonésie, Zuhair Al-Shun, et le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Abdurrahman Muhammad Fahir, s'y entretenus jeudi avec le vice-président indonésien Yusuf Kalla au palais du vice-président à Jakarta au sujet de la suppression du tarif. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré jeudi dans sa déclaration à Jakarta, comme publié par l'agence de presse Antara, à l'étape initiale, la décision a été appliquée aux dattes et l'huile d'olive. Il a ajouté que le vice-président Yusuf Kalla avait également souligné que le tarif zéro était appliqué à d'autres produits palestiniens sans étude de faisabilité, comme l'accord commercial en général avec d'autres pays. Selon le ministre Enggartia Sto, l'application du tarif zéro montre la détermination du gouvernement indonésien à soutenir le renforcement de la vie sociale et des capacités de l'économie palestinienne qui est capable de croître la compétitivité des produits palestiniens. Il a également expliqué que les dispositions relatives à la suppression de tarifs pour les deux produits palestiniens étaient en vigueur depuis le 21 février 2019 à la suite de l'envoi d'une note diplomatique par le ministère indonésien des Affaires étrangères à la Palestine. Ainsi, le peuple indonésien devrait pouvoir profiter des dettes palestiniennes lors de l'arrivée du Ramadan. Le ministre Enggartia Stolokita a également souligné que cette étape est également un élan important pour l'intensification des relations commerciales bilatérales entre l'Indonésie et la Palestine. Pendant ce temps, l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Zuhair Al-Shun, a salué la décision du gouvernement indonésien qui est attendue depuis longtemps. Sa partie a également présenté une liste d'autres produits susceptibles d'éliminer les tarifs en Indonésie. Les données de l'Agence centrale des statistiques montrent que le commerce total entre l'Indonésie et la Palestine en 2008 a atteint 3,5 millions de dollars américains. La Palestine est la 164e destination des exportations indonésiennes. Les principaux produits exportés vers la Palestine sont le café, le thé, les pâtes, le pain, les parfums et les savons. Cependant, la Palestine est la 172e source d'importation pour l'Indonésie avec les dettes comme produit principal d'importation. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Meski harus terluka karena ku terlalu mengenal hatimu, aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti, mana mungkin terus jalani cinta begini. Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi, kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah, aku terima.
Seperti kulit murah
terus tak setia mengkhianati dia, menduakan cinta.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti.
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Cinta Begini, chantée par le groupe musical Tanga. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33.25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, voici le magazine culturel intitulé « La Grande Mosquée de Batam à Riau ». Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous inviterons à visiter la Grande Mosquée de Batam à Riau. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, la mosquée Agung de Batam, ou aussi appelée la Grande Mosquée de Batam, est située dans le centre de Batam, qui est le centre-ville du gouvernement de Batam. Le dôme de la mosquée a une forme unique, semblable à une pyramide. En raison de l'unicité et de la beauté de son bâtiment, la mosquée devient non seulement un lieu de culte, mais également une attraction touristique à Batam. La localisation de la mosquée Agung Batam est facile à visiter. De l'aéroport Hang Nadim, vous pouvez directement prendre un taxi. Mais si vous voulez utiliser les transports en commun, vous pouvez prendre l'autobus Damri pour Batu Aji ou Jodo et descendre à Kepri Mall. À partir de l'arrêt de bus au centre commercial de Kepri, prenez le bus Trans Batam jusqu'au centre de Batam, puis descendez à l'arrêt de la Grande Mosquée. De cet arrêt, il vous suffit de marcher quelques marches pour rejoindre la mosquée Agung Batam. Serviteur, la mosquée Agung à Batam a été construite en 1999 et achevée en 2001. Le bâtiment est de motif malais et l'architecture de la mosquée est unique, parce que la mosquée n'a pas de piliers, de sorte que sa pièce a l'air spacieux. La mosquée est équipée d'une haute tour d'environ 66 mètres. Son dôme a une forme de pyramide qui est divisée en trois parties. Il a une perspective verticale vers un point ci-dessous en tant que symbole de relation entre l'homme et Dieu. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Romeo intitulée Bunga Terakhir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et qui vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre la voix de l'Indonésie et l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est di restaurant, je répète, di restaurant, ou en français, au restaurant. Allons-y et restez avec nous à www.voynews.id. Écoutez maintenant une conversation entre A, le serveur de restaurant, et Tony B.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Jeremy, voici des phrases et des vocabulaire. Enak. Enak, en français, c'est délicieux. Paling enak, paling enak, en français, le plus délicieux. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? En français, quelle est la nourriture la plus délicieuse ici? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? En français, est-ce qu'il y a les autres nourritures? Saya pesan sate. Saya pesan sate. En français, j'ai commandé du sate. Pour demander de la nourriture la plus délicieuse dans un restaurant, dites makanan apa yang paling enak di sini? Et pour demander de la nourriture la plus célèbre, on doit dire makanan apa yang paling terkenal di sini? Comme par exemple, restoran apa yang paling murah di sini? Restoran apa yang paling murah di sini? En français, quel est le restaurant le moins cher ici? Donc, utilisez le mot « paling » pour dire une sauce la plus ou la meilleure des autres sauces. Comme par exemple, « paling murah »,« paling murah », en français, « le moins cher »,« paling tinggi », »,« paling tinggi », en français, « le plus haut », »,« paling enak », paling enak, en français, le plus délicieux, et paling bagus, paling bagus, en français, le meilleur. Nous répétons maintenant cette conversation.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Bon, chers amis, voilà la rubrique Mari Berbahasa Indonesia ou Parler en Bahasa Indonesia. J'espère qu'elle est utile pour vous et au revoir.
We'll be right back.
kasih. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkah.
Cerita setelah sang song ang titulé bahasa kalbu chanté par Titi DJ. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, cerita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons présenter une chanson de Keroncong. Et cette fois, cette chanson sera chantée par Gina Sadli. Pour la chanson de Keroncong, cette fois, nous allons vous présenter Bandung Selatan di waktu malam ou Bandung du Sud dans la nuit. Cette chanson a été créée par le compositeur indonésien qui s'appelle Ismail Marzuki. Bandung est une région de Java de l'Ouest. Cette chanson parle de Bandung du Sud pendant la nuit. La beauté de la nuit de Bandung a inspiré les écrivains à faire une chanson. De nombreux chanteurs de keroncong indonésiens ont chanté cette chanson comme Gina Sadli. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson de Bandung Selatan di waktu malam ou Bandung du Sud dans la nuit, chantée par Gina Sadli. Bonne écoute.
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.